Nicolas Julliard.
Bonjour à vous, rencontre aujourd'hui avec Claude Shannon par l'entremise de Jean-Louis Dessalles. Mathématicien de génie, père fondateur de la théorie de l'information et poète à ses heures, Claude Shannon, disparu en 2001, aurait aujourd'hui 100 ans. À cette occasion, le Musée des Arts et Métiers de Paris lui consacre une exposition, Claude Shannon, le magicien des codes. David Christoffel a rencontré pour en parler l'informaticien et chercheur Jean-Louis Dessalles, grand admirateur de Shannon, qui évoque ici quelques-unes des révolutions opérées par l'Américain dans le champ de l'information.
L'information est une notion, ce n'est pas qu'une technique. C'est même ça qui a choqué du vivant de Shannon. Ça a été d'imaginer qu'on puisse définir l'information indépendamment de son contenu. Ah, donc côté des sciences humaines, grosse désillusion. On se dit, voyons, comment peut-on définir la notion d'information en ignorant que, par exemple, c'est un drame vient de se produire, on appelle ça une information. Ou le fait qu'on ait lancé un dé et qu'il soit tombé, plusieurs dés et qu'il soit tombé. On va arriver à la même probabilité. Pour Shannon, ça va être la même information, alors que pour un être humain, ça va être une information très différente. Dans un cas, quelque chose de dramatique. Dans l'autre cas, c'est une simple surprise liée à un jet de dés. Et donc ça, ça a été le genre de problème, de hiatus, qui a motivé mon travail dans ce domaine.
Vous avez un collègue qui s'appelle Claude Béroux au département d'électronique de Télécom Bretagne qui dit que pour Shannon, amour et haine ne sont que deux mots de cinq lettres prises dans un alphabet qui en compte 26. Ça pose bien le problème.
Exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas, comme on dit, la sémantique, c'est-à-dire le sens, en l'occurrence des mots, ou le sens des événements. Simplement, ça sera pour lui la même formation parce que ça sera la même probabilité ou la même improbabilité. Donc l'exemple que j'avais pris récemment, c'était le fait qu'une princesse anglaise meure. Ça fait une énorme... On se souvient de l'événement. Ça a créé une immense émotion. Remplacer la princesse anglaise par une boulangère anglaise dont on précise les derniers numéros de son numéro de sécurité sociale, ça fait pas un événement. Ici, à Paris, par exemple, moi je vous parle de Paris, une boulangère anglaise dont le numéro de sécurité sociale se termine par 10-676, ça peut pas m'intéresser. Alors que la mort, et c'est la même probabilité.
Mais pourquoi vous précisez, précisez la fin du numéro de sécurité sociale pour avoir la même probabilité.
Voilà, je me fais une image du nombre de boulangers en Angleterre.
Mais pourquoi cette égalité de probabilité est devenue tellement importante dans la théorie de l'information? Pour des raisons informatiques, pour le coup.
Pour des raisons informatiques, pour des raisons de calcul. Il disait que, et d'ailleurs toute la technologie des télécommunications numériques repose là-dessus, c'est que quand vous voulez passer des informations sur un canal, par exemple pour arriver la 3 ou 4G, pour arriver à votre téléphone, eh bien on a un canal de transmission, et ce qui est intéressant du point de vue des ingénieurs, c'est le débit d'informations qu'on va pouvoir passer en tenant compte évidemment de deux choses qui sont la bande passante, et d'un côté, et de l'autre côté le bruit. Dans le cas du téléphone, on peut avoir énormément de bruit lié aux perturbations, aux réflexions multiples si vous êtes dans un bâtiment. Et donc Shannon nous permet de calculer le débit d'information utile. Encore faut-il définir la notion d'information. Et pour lui, ça a été la grande avancée du point de vue de l'ingénierie. Ça a été de dire non, on ignore tout ce qui est sémantique, on ne regarde que la probabilité de l'événement. Pour Shannon, la base de l'événement, c'est un tir à pile ou face. C'est le bit d'information.
Ça tombe sur. Il est l'inventeur du bit.
Il est l'inventeur, le mot bit, binary digit. Même s'il dit que c'est quelqu'un d'autre qui l'a employé avant lui, la première trace écrite qu'on ait de ce mot, c'est dû à Shannon. Dans son fameux article de 1948, qui est un article presque miraculeux, on sait qu'il a dû penser à cet article pendant des années avant de publier, tellement cet article atteint la perfection et nous livre tout un tas de notions qui ont révolutionné les télécoms.
C'est un article qui s'intitule « Une théorie mathématique de la communication ». Qu'est-ce qu'il a de miraculeux ?
Oui, il est miraculeux parce que dans le même article, il définit la notion d'information. il en donne les deux limites essentielles qui sont ce que les ingénieurs appellent le codage de source et le codage de canal. Le codage de source qui nous permet d'éliminer toute redondance statistique. C'est-à-dire que si, par exemple, en français, chaque fois que vous avez la lettre Q, vous avez un U derrière. Donc le U est terriblement redondant. Il y a des exceptions. Hein. Il y a 5 et coq. Je crois qu'il y a ces deux exceptions. Donc vous avez une énorme redondance. Si on oublie le U, on a gagné de l'information. Donc ça, on va comprimer l'information au niveau de la source. Ça, c'est le codage de source. Voilà autre grande avancée qu'il a introduite dans cet article. Et après, sa démonstration du codage de canal, ça va être, on va réintroduire de la redondance, ça a l'air paradoxal, hein. On enlève de la redondance parce que on paye pour rien, hein. C'est quand vous devez payer votre facture de télécom, vous payez à la quantité d'informations, souvent. Donc vous êtes limité à 2 gigabits maintenant, bon, mettons. Et donc à ce moment-là, on va enlever toute l'information inutile et bizarrement, on va réintroduire de l'information inutile, mais pour lutter contre le bruit. Donc on va mettre de la redondance qui est optimale pour lutter contre le bruit. Ça aussi c'est Shannon, ça aussi c'est l'article de 1948.
Donc pour pouvoir effectivement arriver à ce degré de codage de l'information qui nous permet aujourd'hui d'en faire circuler autant, faut-il aussi réduire l'information à une suite de 0 et de 1, donc à produire un codage? Le problème de ce codage, c'est ce que vous relevez, c'est qu'il est indifférent à la qualité de l'information, c'est-à-dire à ce que l'information peut par exemple nous intéresser. Vous reprenez une phrase d'un journaliste américain de la fin du 19e siècle, Charles Dana, qui disait « Si un chien mord un homme, ce n'est pas une nouvelle, mais si un homme mord un chien, ça, c'est une nouvelle. » Mais là, pour le coup, c'est au profit de l'improbable. C'est-à-dire qu'on est plus curieux de ce qui est improbable.
Voilà, on pourrait le présenter comme ça. C'est comme ça que Shannon le présenterait.
Mais il y a la boulangère dont...
Non, mais il y a la boulangère. Mais même si on repense cette histoire de chien qui mord un homme, d'abord, l'homme qui mord un chien, on considère que c'est un événement qui n'est pas improbable. C'est un événement qu'on considère comme a priori impossible. Pourquoi un homme irait mordre un chien? Et puis, on se dit... Ah ben non, mais peut-être qu'il est devenu fou. Donc il s'est pris pour un chien. Mais s'il est pris pour un chien, pourquoi irait-il mordre un homme? Ainsi de suite. En fait, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est un calcul, c'est pas un calcul des probabilités, comme le voudrait Shannon, hein. On fait un calcul de scénario causal. On se dit, comment, sur cette Terre, peut-on avoir une situation dans laquelle un humain va mordre un chien? Voilà. Et donc ça, c'est d'un côté, on a un problème par rapport à Shannon, c'est que on raisonne non pas en termes de probabilité, mais en termes de scénario possible, de causalité. Voilà. Et de l'autre côté, le chien qui mord un humain, ça peut être intéressant quand même. Voilà, si l'humain s'appelle Manuel Valls, par exemple, ou si les premiers ministres de la France, ah, il l'est plus, pardon, s'il mord le président de la République. Eh bien, ce chien deviendra célèbre certainement, mais ça fera une nouvelle, une news intéressante. Est-ce que ça change les probabilités? On pourrait dire le fait qu'un chien mord quelqu'un et que ce quelqu'un se trouve être président de la République ou que se trouve être boulanger, a priori, la causalité ne change pas beaucoup, mais la valeur de news va changer énormément. Et donc, on se dit, ben là, on a un problème, parce que en termes de probabilités objectives, ça change pas. En termes de probabilité subjective, tout change. Et voilà, mon travail a consisté à dire que effectivement, on peut sauver une approche shannonienne de l'information au sens humain, à condition de remplacer la probabilité objective des ingénieurs par une notion de probabilité subjective. C'est et quand même qu'il soit une notion qu'on peut définir mathématiquement. Donc ça a été le sens de mon travail à travers ces années, depuis le jour où j'ai découvert la théorie shannonienne. We'll be right back.
Alors, vous dites aussi qu'il y a une chose qui est très importante dans la communication humaine et qui n'est pas prévue par le calcul des probabilités, c'est la pertinence. Et vous prenez l'exemple de tirage du loto. Vous dites, si demain sort au loto la combinaison 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va sans doute s'en parler parce que ça nous étonne et que c'est une information qui est pertinente à nos yeux. Alors que si le tirage sort 49, 12, 36, 28, je ne sais quoi, là, pour le coup, c'est un tirage qui nous paraît presque banal et par conséquent, ce n'est pas une information pertinente à nos yeux. Alors que, du point de vue des probabilités, c'est égal.
Ah, certainement, du point de vue des probabilités objectives, le tirage de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou de 12, 17, 32, 33, 45, ça sera exact. Les deux combinaisons ont exactement la même probabilité de sortir, à supposer, et ce que je fais, que la machine n'est pas biaisée, qu'il n'y a pas de tricherie derrière. Donc la probabilité est la même, mais la probabilité objective est la même. La probabilité subjective est très différente. Au point que ça se voit dans la façon dont les gens ont de jouer.
Vous voulez dire que vous avez proposé des grilles à des gens avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous avez constaté une réticence à la valider?
Ah oui, non, ils pensaient que c'était le meilleur moyen de perdre. Donc j'ai eu plusieurs personnes qui ont éclaté de rire. Enfin voilà, il y en a un qui m'a dit, oh, si tu veux perdre, tu joues ça. Alors que objectivement, non, on peut pas dire ça. Mais effectivement, le fait de jouer au loto et d'espérer que sa combinaison sorte est exactement la même probabilité que le fait qu'un 2, 3, 4, 5, 6 sorte. Humainement, on n'a pas cette perception. Alors comment l'expliquer? On a le même phénomène dans les coïncidences. Comment quantifier la probabilité d'une coïncidence? Eh bien, une coïncidence, c'est une situation dans laquelle la complexité qu'on attend est, si on a deux événements identiques qui se produisent. Par exemple, l'exemple qui est souvent cité, c'est Kennedy et Lincoln qui se sont fait assassiner tous les deux par une balle dans la tête alors qu'ils étaient assis à côté de leur épouse. Leur successeur s'appelait Johnson dans chaque cas. Enfin, une coïncidence extrêmement troublante. Et ils ont été élus à 100 ans d'intervalle, enfin, tout ce genre de choses. Et en fait, en termes de probabilité, pourquoi ça nous paraît très improbable? Parce que c'est anormalement simple. Là, on attend à ce qu'il y ait deux causalités, donc on doit payer deux complexités, une complexité pour Lincoln, une complexité pour Kennedy, pour que le monde produise un tel destin. Donc on a deux destins, donc deux complexités. Or, dans la description, grâce aux ressemblances, on peut utiliser l'un pour décrire l'autre, et donc on a, côté description, une situation qui est anormalement simple. Et donc notre cerveau d'être humain dit « Oh là, il y a quelque chose de bizarre ». Je m'attendais à une complexité, je vois quelque chose d'anormalement simple, c'était improbable, c'est une information, je vais la communiquer.
Ça veut dire que la cognition humaine ne se comporte pas face aux informations données par les événements de la même façon que l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, pour le coup, elle fait de grands progrès avec Claude Shannon qui invente un robot pour jouer aux échecs.
Ah oui, Shannon est un précurseur de l'intelligence artificielle. À une époque où, imaginez la puissance des ordinateurs dans les années 50. Un contemporain n'appellerait même pas ça un ordinateur. C'était l'équivalent de quelques dizaines de transistors. Hein. C'est rien. On peut parler de gigabit, gigaoctet, giga de mémoire ou de débit d'information. À l'époque, c'était même pas concevable. Et pourtant, Shannon a imaginé une machine capable de jouer aux échecs. Capable d'une autre machine qui était capable de retrouver son chemin dans un labyrinthe. Donc, pour faire des preuves de concept.
C'est Théséus, je crois, cette machine.
Peut-être. Alors, j'ai oublié le nom exact, mais on a des vidéos qui le montrent. Et donc, il avait fait une petite souris robot capable de se diriger dans un labyrinthe. Il utilisait même pas des transistors, il utilisait des relais de centrales téléphoniques pour faire ça. Et ça marchait. Il était passionné par les machines, il jouait, mais il était aussi passionné par la notion d'intelligence et le fait que l'intelligence soit une question de traitement de l'information.
Et donc la machine peut jouer à me surprendre. Et cette notion de surprise, pour le coup, est prévue par les théories de Claude Shannon.
Oui, c'est exactement le fondement de la théorie de l'information, c'est cette notion de surprise. Il disait que, justement, il avait enlevé toute idée de sémantique d'information en ne gardant que l'aspect surprise. Donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6 du loto, lui, il aurait été gêné parce qu'il ne savait pas mesurer cette surprise. Mais parce qu'il ramène la surprise à la notion de probabilité. Mais si on garde uniquement la notion de surprise, cette idée de simplicité anormale, c'est elle qui capture, comme on dit en anglais, qui capture la notion de surprise dans ce cas-là. Et donc le nœud de l'affaire, c'est vraiment ça, c'est la notion de surprise, et c'est elle qui nous relie à la notion de pertinence. Finalement, pour calculer la pertinence, l'idée de Shannon, c'était de regarder la faible probabilité, alors que si on regarde la notion de surprise et qu'on définit la probabilité non pas par des moyens objectifs, mais uniquement d'après la notion de surprise, c'est-à-dire, bon, ça reste... L'idée, c'est que ça reste objectif, mais que ça tient compte de l'observateur. Donc, quand ça tient compte de l'observateur, on appelle ça subjective, probabilité subjective. Mais ça n'enlève rien au caractère mathématique de la définition. Et donc, on va dire que, du point de vue de Shannon, et donc, ce qui est important, c'est la surprise, c'est que la surprise fonde la pertinence. Voilà. Donc, avec ça, on arrive à réconcilier Shannon avec la vie quotidienne, avec le fait que, quelque chose, ce qui remplit nos journaux, hein, les drames, la mort d'une princesse anglaise, un loto. Ben, si 1, 2, 3, 4, 5, 6 sort au loto, ça sera dans les news. On parlait de coïncidence. La loterie israélienne, il y a quelques années, a sorti la même combinaison à 3 semaines d'intervalle. Et donc, ça fait les news, pas seulement dans le pays concerné, Israël, mais je crois que j'avais eu la news dans le journal américain qui avait repris la nouvelle.
Alors Shannon, en termes effectivement de recoupement dans la vie quotidienne de la théorie de l'information, s'interroge tout de même sur la notion d'utilité, et il crée une boîte avec un seul interrupteur, et quand on l'actionne, la mise sous tension va déclencher un mécanisme où le couvercle de la boîte s'ouvre pour voir sortir une main qui n'a pas d'autre fonction et action que de remettre l'interrupteur sur off. Donc c'est une machine qu'on allume pour qu'elle s'éteigne elle-même.
Voilà, ça c'était le caractère facétieux de Shannon. Il pouvait se permettre parce que à l'âge de 30 et quelques, il est né en 1916, donc en 48, il avait 32 ans. Voilà, c'est l'âge d'un de mes fils, 32 ans. Il était déjà célèbre, célébrité mondiale dans le domaine des ingénieurs. Donc à partir de là, on pourrait dire qu'il pouvait être payé à ne rien faire. Et donc il s'est fait plaisir. Et parmi ses plaisirs, cette facétie de faire une machine, la machine qu'il appelait la machine ultime, je crois, qui est une machine, ou je crois, voilà, la ultimate machine, qui est une machine dont la seule fonction est de s'éteindre elle-même. Voilà. Bon, c'est un clin d'œil qu'il a fait à ses contemporains et à la postérité.
Et les robots jongleurs, c'était une facétie?
Alors là, non. Alors là, c'était beaucoup plus difficile parce que lui-même savait jongler. Et il se disait, un des défis des machines, c'est pas seulement de les rendre intelligentes, mais c'est aussi de les rendre capables de faire ce que font les humains. Et un humain est capable de jongler, donc ça veut dire calculer la trajectoire des objets, ça veut dire être capable de les rattraper au bon moment, de les relancer, et de jongler avec plus d'objets qu'on a de mains. Donc on n'a que deux mains, mais on peut jongler avec trois objets. Est-ce qu'un robot peut faire ça? Il disait, ben c'est un défi. Alors là, on quitte la notion de traitement de l'information, quoique... On a une machine qui traite une information, mais une information qui n'est pas une information discrète, qui n'est pas une information en termes de tout ou rien ou de bits, mais une information continue qui est anticiper une trajectoire. Il y a une partie de l'intelligence qui n'est pas enfermée dans des calculs de binaires, mais qui va calculer des phénomènes continus. Et d'ailleurs, l'essor récent de l'intelligence artificielle est de ce type-là. Hein, si vous utilisez, enfin, actuellement, ce qui est à la mode, c'est l'apprentissage profond. Utilise des méthodes statistiques qui calculent sur des données qui sont des données à la fin qui sont continues, hein, qui sont des ressemblances, qui sont, quand on fait la reconnaissance d'images, maintenant, une machine est capable de repérer des ressemblances entre des personnes. Et donc, ou entre vous-même à différents âges. Et donc ça, c'est des calculs sur des domaines continus, qui sont les images, qui sont des ressemblances. Et donc ça fait partie de l'intelligence. Donc Shannon, avec son robot jongleur, avait déjà l'intuition qu'une partie de l'intelligence repose sur des données continues.
Et alors, au moment où il doit faire un article scientifique sur la jonglerie pour la revue Scientific American, il écrit une lettre à cette revue que je vous lis. « Vous pensez probablement que je je gaspille, je dis gaspille mon temps pendant que mon papier sur la jonglerie se languit sur l'étagère, ce n'est qu'à moitié vrai, j'en suis venu récemment à deux conclusions. Première conclusion, je suis meilleur poète que scientifique. Deuxième conclusion, Scientific American devrait avoir une rubrique poésie. Alors, Shadon poète, ça vient de ce que finalement les enjeux qu'il mobilise par ses recherches sur l'information, pour le coup, finissent par dépasser le seul exercice des mathématiques.
Oh, on pourrait parler des heures sur cet aspect poésie. Alors, je ne connais pas en détail la vie personnelle de Shannon et qui l'amène à se considérer lui-même comme poète, mais en tant que, et je crois qu'il considérait son activité scientifique comme ayant une dimension esthétique. Et notamment, quand il parle de la théorie de l'information, c'est très étonnant, dans un article ultérieur, il disait « n'abusez pas de la théorie de l'information, il est rare que la nature livre plus d'un de ses secrets à la fois ». Oh, ça nous dit plein de choses. Ça veut dire que lui, on pourrait imaginer que Shannon est un ingénieur, qu'il a fait une invention technique. Pas du tout. C'est pas comme ça qu'il le voyait. Il voyait qu'il avait percé un des secrets de la nature. Et avec toute la dimension esthétique qui est derrière. Hein, on sait que les scientifiques qui essaient de comprendre la nature, on pense aux physiciens par exemple, sont sensibles à la dimension esthétique des modèles qu'ils développent. Est un modèle plus simple, on retrouve la notion de simplicité derrière, les modèles simples sont plus beaux. Et Shannon était certainement très sensible à cette dimension esthétique de son travail scientifique. Je pense qu'il était dans sa vie personnelle avec son aspect, bon c'est déjà sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur les aspects jonglage, les aspects les développement de machines, de robotique. Je pense qu'il avait cet aspect facétieux qui anime par exemple... Les artistes, quand ils font quelque chose d'une installation esthétique, la notion même d'installation, qui n'existait peut-être pas trop à l'époque, je pense que Shannon se voyait comme ça, comme étant un créateur. Créateur pas seulement inventer ou découvrir des modèles scientifiques, mais aussi créateur de machines. Et il pouvait se permettre de faire ça. En gros, c'était son hobby. Hein. Il a réussi à faire que son métier soit son hobby.
Mais ce qui laisserait penser que le caractère facétieux vient au départ d'une haute sensibilité à la beauté des raisonnements.
Oui. Je pense que ce n'est pas un hasard s'il a eu un tel succès. Je pense que le fait qu'il ait l'impression de faire son travail... Alors, dans des conditions qui étaient pas évidentes, parce que lui, il a commencé sa carrière juste avant la guerre et pendant la guerre. Il était très jeune pendant la guerre, hein. Donc, il a été employé et donc une partie de ses publications c'était sous le sceau du secret. Donc, c'était diffusion restreinte. Je sais même pas si on a tous les écrits de Shannon actuellement.
Oui, parce qu'il a 23 ans au début du conflit. Et qu'est-ce qu'il fait pendant les années de la Seconde
Guerre? Alors, il travaille en cryptographie, notamment. Il a même travaillé en biologie, hein. Donc ça, c'était juste avant la guerre. Sa thèse, c'était une thèse, on pourrait dire, de biologie. Hein. Et on se dit que c'est cette conjonction, le fait qu'il se soit senti utile en cryptographie, on doit la théorie de l'information à ce passage obligé par la cryptographie. Donc voilà, donc pour démarrer une carrière, quand on est ludique et facétieux, une ambiance de guerre, c'est pas idéal. Je pense qu'il a peut-être essayé de se rattraper après, mais je pense aussi que le fait qu'il ait abordé tous ces problèmes-là comme un jeu, hein, finalement, il a dit, mes collègues ingénieurs au MIT ou ailleurs, à Princeton, se posent des problèmes très sérieux de transmission de l'information avec les enjeux d'utilisation de la bande passante, sachant que derrière il y avait des enjeux d'argent. Il a dit, bon, moi je prends ça comme un jeu de quand j'étais gamin, je transmettais des messages secrets, on l'a tous fait. Eh bien, mais rares sont ceux d'entre nous qui se sont posés des questions en termes d'économie, de structuration optimale du message pour obtenir le moindre nombre de signes minimal. Enfin, Shannon était de cette trempe-là. Il s'est posé d'autres questions déjà, mais à 20 ans, 23 ans, on est gamin, et il se posait ces questions comme un gamin. Il est resté gamin toute sa vie, je pense. Voilà.
I'm the operator with my pocket calculator.
La calculette Pocket Calculator, morceau de Kraftwerk repris ici par le quatuor Balanescu pour illustrer les propos de Jean-Louis Dessalles au micro de David Christoffel. L'exposition Claude Shannon, le magicien des codes, est à voir jusqu'au 12 mars au Musée des Arts et Métiers de Paris. Merci à Patrick Lenoir pour la réalisation de cette émission. Merci à Géraldine Ulrich pour l'assistance de production. Je vous donne rendez-vous lundi dès midi dans Nectar sur Espace 2 et je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye.
Abondance de mélodie, finesse rythmique et pas une note de trop. L'octuor et le trio à cordes en si bémol majeur de Schubert sera donné par le Charoun Ensemble de la Philharmonie de Berlin à la salle de musique de la Chaux-de-Fonds le 22 janvier à 17h. Enregistrée par Espace 2, cette soirée sera rediffusée prochainement dans les concerts du mardi à 20h.